je voudrais parler, surtout étudier avec vous la prophétie biblique. Et pendant les 4 séances, j'essaye, pour commencer, parce que tout le monde peut-être n'est pas au courant des manières comment on étudie la prophétie. Donc aujourd'hui, je parle de la généralité sur ce qu'on entend par parole prophétique. Je parle premièrement de pourquoi étudier la prophétie aujourd'hui avec des arguments bibliques. Deuxième point, comment interpréter les prophéties bibliques. Vous le savez peut-être que, ne serait-ce que pour étudier ce qu'on appelle, on viendra, la grande tribulation à venir. Il y a différents modes d'interprétation, au moins 3. On parlera de règne de Christ pendant 1000 ans. Au moins 4 positions. Et c'est ça qui fait peur. Et moi, je vous le dis franchement, pourquoi avoir l'audace d'amener ce sujet où on se dit, mais pourquoi alors en faire que s'il y a tellement d'interprétations, personne n'a raison sur tel ou tel, pourquoi je crois à cela? Ça a bloqué mon esprit à un moment, pour ainsi dire que donc, la prophétie n'est pas si sûre que ça. Il ne faut pas confondre ce que nous pouvons comprendre de ce que Dieu dit, hein, mais ce que Dieu dit, il le réalise sans nous. Et donc, pour donner la base, je voudrais voir avec vous aujourd'hui, d'abord, au moins 4 raisons. Pourquoi on veut étudier la prophétie? Et après, comment interpréter? Donc, premièrement, je veux vous demander, s'il vous plaît, donc, de lire avec moi 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Verset 16 jusqu'à verset 21. 2 Pierre chapitre 1. Verset 16 à verset 21. Est-ce que quelqu'un peut le lire?
Ce n'est pas en effet en suivant des fables à une grande multitude que nous avons fait connaître la puissance et le règlement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et la gloire. Quand la voix magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole est prophétique à laquelle vous faites bien de prête attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vient à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être en objet interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu.
Voilà, c'est un passage très, très condensé et je dirais complet sur le sujet. Ici, l'apôtre Pierre, dans ses pensées, si vous voulez, donne 2 certitudes. Il va parler d'abord de la certitude lors de la montagne de la transfiguration où il était avec le Seigneur. 3 apôtres qui étaient avec le Seigneur, hein, sur cette montagne, ils ont vu la gloire de Dieu. Et il est dit que cette vision, c'est tellement ça les a frappés, ils sont témoins de cela, témoins oculaires, hein, de cette vision. Mais ce qu'il faut retenir au verset 19, il dit c'est encore plus important que la vision que nous avons reçue, la parole prophétique. Donc, la certitude de la vision de la gloire du Seigneur sur la sainte montagne, hein, et ici, la certitude, hein, de la parole prophétique Et cette parole, il dit, c'est quoi son rôle? C'est comme une lampe. Vous savez, Satan a entraîné ce monde dans les ténèbres. Et la lampe, ici donc en faisant allusion à la parole prophétique, va dissiper ce ténèbre dans lequel ce monde se trouve. Jusqu'à ce que vienne apparaître l'étoile du matin, en faisant allusion un peu de le Seigneur qui va revenir, on va en parler en détail, pour enlever l'Église, dans le but plus tard, dans d'autres passages, d'instaurer son règne de justice sur la terre. Et ce qu'il faut retenir, si j'ai quelque chose à vous faire retenir dans ce passage, c'est le verset 21. Il y a une chose, les prophètes qui ont écrit donc la prophétie, ce sont des hommes. Donc les discussions vont dire, oui, mais s'ils sont des hommes, c'était leur... Peut-être on acceptera qu'ils reçoivent la révélation, mais la révélation va l'interpréter à leur manière, donc on dirait ce qu'ils vont écrire viennent d'eux-mêmes. Ah non, 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 dit Pierre, surtout pas. Il traite ici de l'origine même de la parole prophétique. L'origine, c'est qui? D'après le verset 21. C'est le Saint-Esprit. Alors je dirais, il y a les auteurs humains qui sont poussés. Le mot ici, c'est très fort quand on dit inspiré. C'est poussé comme vous avez un voilier. C'est le vent qui le pousse dans une direction. Et l'idée ici, c'est ça. Les auteurs divins vont utiliser les mots, vont utiliser dans leurs écrits, non pas leur imagination, mais même jusqu'au choix des mots, c'est le Saint-Esprit qui va leur donner les mots qu'il faut dire et écrire. C'est ça, donc l'origine de la prophétie, ce n'est pas les auteurs humains, mais je dirais l'auteur divin qui les souffle, qui les pousse. Et c'est ce que Pierre est en train de dire ici. Et on peut dire, d'après ce verset 21, on voit même la définition. Qu'est-ce qu'un prophète, à votre avis, dans le verset 21? On voit donc l'origine divine de la prophétie. C'est le Saint-Esprit qui pousse les auteurs humains à écrire. Mais qu'est-ce qu'un prophète? On voit dans ce passage aussi, à la fin, on peut voir, verset 21, que un prophète, en fin de compte, c'est donc la porte-parole de Dieu. Parce qu'il est dit ici, ils sont poussés par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit dans ce qu'ils vont nous dire, dans ce qu'ils vont nous écrire. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils parlent de la part de Dieu aux hommes. Ça, c'est le prophète. Voyez? Donc, je dirais, très important ici, donc, pourquoi étudier la prophétie? Première raison que je dirais ici, c'est que la prophétie, comme je vous ai dit au départ, même si les hommes ont différentes interprétations, différentes positions pour interpréter la prophétie, ce qu'il faut retenir, c'est Dieu qui est à l'origine même des paroles prophétiques. Et les auteurs humains étaient poussés, inspirés par le Saint-Esprit pour nous écrire ces choses. Donc, on peut s'appuyer sur la prophétie à venir parce que c'est Dieu qui est à l'origine, comme dans le passé, quand les prophètes ont prophétisé sur pas mal d'événements à venir, c'était réalisé aussi. Donc on peut s'appuyer sur l'étude de la prophétie dans le sens que c'est l'origine, c'est Dieu lui-même. Deuxième chose qu'il faut remarquer, étudier la prophétie, parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a 17 livres sur 39 qui sont des livres prophétiques. On peut noter aussi le livre donc de Zacharie, d'Apocalypse et même le livre historique de Daniel. Vous allez être surpris, Daniel dans la Bible hébraïque ne fait pas partie des livres prophétiques. Il est dans les écrits. Et pourtant, le Seigneur Jésus lui-même appelle Daniel, on verra ça, un prophète. Donc, deuxième chose, c'est qu'il faut retenir, nous devrions étudier la prophétie parce que c'est un thème majeur de la Bible, la prophétie. Parce que je vous ai dit, 17 livres sur 39, dans le Nouveau Testament, en parlant de l'Apocalypse, en parlant une partie des évangiles qui traitent de ce sujet-là, donc c'est un thème majeur de la Bible, la prophétie, donc il faut l'étudier. Troisième raison Je dirais, regardez Apocalypse 22, 16, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 22, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un peut nous donner la définition de qu'est-ce que ça veut dire Apocalypse? C'est pas le chaos, comme on veut les auteurs, ceux qui créent des films sur l'Apocalypse, c'est pas les catastrophes. Mais c'est quoi, tu l'as dit, Laetitia?
Révélation.
C'est un voile que vous enlevez. Donc, c'est littéralement, c'est ça la signification. Et dans verset, chapitre 22, verset 16, j'aimerais vous dire que c'est pas moi qui voulais en faire une série d'études sur la prophétie. Mais le Seigneur Jésus dit ceci à la fin de ce livre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Où? Dans les instituts bibliques? Dans les séminaires de théologie? Dans les églises. Et quelles sont ces choses? Dans Apocalypse. Ces choses, si on lit dans Apocalypse chapitre 1, on peut voir, le livre d'Apocalypse, c'est pas aujourd'hui, traite des choses à l'époque où Jean l'écrit, qui s'est passé. Il traite des choses qui sont passées, des choses qui vont présent, ce qu'il a vu, et les choses à venir. Et toutes ces choses, le Seigneur Jésus termine, moi, Jésus, j'ai envoyé un ange pour vous attester dans la version semeur, pour rendre témoignage à ces vérités. Il est traduit comme ça ce verset. J'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Donc c'est important d'étudier les prophéties, parce que là pour le livre d'Apocalypse, donc le dévoilement de la personne de Jésus-Christ face à l'événement à venir, était un sujet important à ses yeux même. Vous voyez, c'est pas nous, mais c'est le Seigneur lui-même veut, parce que c'est destiné à l'Église, et il rend témoignage de ces vérités qui nous sont adressées. Et je dirais une quatrième raison, en parlant du livre d'Apocalypse, regardez Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3, s'il vous plaît. Chapitre 1, versets 1 à 3. Quelqu'un peut le lire ce passage?
Le roi se lève qui dit et se trouve entendre la parole de la prophétie et qui garde la chose qui vient dans le futur par le temps et le proche.
Merci. Juste au verset 1 et 2, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, c'est pour ça qu'à la fin on en a vu tout à l'heure, il a envoyé l'ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. Et notre frère a lu, heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Donc ici c'est révélation dans le sens, je vous ai dit, enlèvement d'un voile ou bien l'acte de découvrir. Donc le livre d'Apocalypse dévoile la personne de Christ en rapport avec l'avenir. Et je remarque succinctement quatre choses. Il expose la place centrale de Jésus-Christ dans les jugements à venir. Le livre d'Apocalypse. Il va exposer la place centrale de Jésus-Christ face à l'avenir concernant l'Église. En parlant donc de l'enlèvement, en parlant de son retour, juger les nations avec le Christ, il va exposer le retour de Christ en liaison avec la nation d'Israël. Et pour terminer, la place centrale de Jésus-Christ face au but que Dieu vise pour les nations aussi dans l'avenir. Donc Jésus-Christ est la place centrale et le sujet central de la prophétie concernant l'avenir. Donc des raisons qui nous poussent à l'étudier. Et une dernière raison, je dirais, je parlais des jugements à venir. Et donc ça nous donne une perspective aussi, un changement dans notre façon de vivre dans le présent, concernant cet avènement à venir. Si nous savons que ce monde va encourir le jugement qui lui est réservé parce qu'il a rejeté Dieu, ma vie, mon attitude face à ce monde doit être non pas celui qui va être entraîné par la philosophie et les pensées de ce monde, mais quelqu'un au contraire qui va nager en contre-courant, sachant que ce monde va à sa perte. Et donc ça change nos priorités aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important dans ma vie aujourd'hui qui compte en perspective de la prophétie concernant l'avenir? Donc ça a un impact sur notre sanctification de tous les jours. Qu'est-ce qui je dois laisser, hein, qui m'entraîne, qui me donne une affection telle à ce monde que je suis tiède pour Jésus-Christ? L'étude de la prophétie nous aide dans notre sanctification à chercher la priorité, à laisser ce qui ne contribue pas à notre sanctification. Donc c'est important de l'étudier. Maintenant, vu ces raisons, est-ce qu'il y a des questions avant d'attaquer? Comment maintenant interpréter la prophétie? Est-ce qu'il y a des questions? La semaine prochaine, je donnerai une page blanche et j'aimerais juste changer comme cela, de faire une petite révision de 5 minutes. Et de 5 minutes, vous allez juste donner un point de chaque argument, pourquoi étudier la prophétie. Juste pour savoir si vous avez retenu les points importants. S'il n'y a pas de questions, on va regarder maintenant comment comprendre la prophétie. Donc il y a 4 lois d'interprétation, on peut en mettre plusieurs. Mais je dirais 4, ça nous donne un garde-fou et nous donne les outils pour pouvoir comprendre vraiment la prophétie. D'abord, la première loi d'interprétation. Ça, peut-être, tu peux noter l'envie, s'il te plaît. Donc, comment comprendre la prophétie? Donc, première loi, c'est ce qu'on appelle la méthode littérale. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que nous devons interpréter les mots dans leur sens normal et habituel. Mais attention, selon le contexte et en accord avec les temps historiques où l'auteur a écrit. Donc la première loi d'interprétation, c'est la méthode littérale. Quand vous avez un texte devant vous, donc vous devrez comprendre à première vue le sens des mots tel qu'il est écrit. Mais par rapport au contexte de l'époque où il a été écrit, hein, les contextes historiques. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là tout simplement une base, si je peux dire ainsi, une base pour attester cela. Quand on regarde les prophéties dans le passé et qui sont réalisées, on remarque toujours que les choses étaient accomplies d'une manière littérale. Je voudrais vous donner quelques exemples. Regardez Nombre 14, 33. Là, vous avez une prophétie. Et vous allez regarder dans Deutéronome 2, 7, l'accomplissement. Est-ce que c'est d'une manière imagée, allégorique que c'était réalisé, ou est-ce que c'est d'une manière littérale comme c'était dit dans Nombre 14, 33, quand la prophétie a été donnée, et comment ça a été réalisé? Donc, la prophétie, Nombre 14, 33, et l'accomplissement de Deutéronome 2, 7. Quelqu'un peut le lire? Nombre 14, 33. Vous l'avez trouvé, si quelqu'un peut le lire.
Et vos enfants se trouveront salés dans le désert, qui porteront la tête de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous salés dans le désert.
Voilà. Moïse, qu'est-ce qu'il lui donne à dire au peuple ici? Il leur dit quoi? Ils seront, oui, pendant combien de temps? 40 ans. À cause de quoi? De l'infidélité, leur désobéissance à Dieu. Et regardez Deutéronome 2,7. Donc Moïse dit littéralement, hein, là voilà ce qui va se passer. Et l'accomplissement, regardez Deutéronome 2,7. Qu'est-ce que nous lisons?
Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de ta main. Il a fourni ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il n'a manqué de rien.
Voilà. Moïse maintenant avec le peuple, y compris, où sont-ils maintenant?
Dans le désert.
Dans le désert. Et qu'est-ce qu'il raconte de son expérience du désert ici? Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Pourtant, à cause de leur désobéissance, ils ont payé leur désobéissance. Mais le Seigneur qui a dit que tu vas, par le biais de Moïse, tu vas être 40 ans dans le désert. Hein, il y en a beaucoup qui vont mourir. On peut lire par ailleurs. Et voilà, ça se réalise. Ils sont maintenant dans le désert. Hein, et voilà 40 ans, il fait une perspective en arrière, 40 ans maintenant. Hein, que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Donc c'est réalisé. Hein, Moïse vit cette réalité. Regardez Deutéronome 28, 64. Là, qu'est-ce que Moïse écrit? Qu'est-ce qu'il dit? 28, 64.
L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi, ni tes ancêtres n'avaient connus, du bois et de la pierre.
65 aussi, s'il te plaît.
Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel te donnera un cœur inquiet, des désirs affaiblis, une âme découragée.
Allez, 66, excusez-moi.
Car tu seras comme suspendu à un fil devant toi, et tu trembleras la nuit et le jour, tu n'auras pas conscience dans l'existence.
Donc, voilà. Voyez, Moïse a donné cette prophétie, et est-ce que c'est réalisé ça? Quand c'est réalisé, qu'il y a la dispersion des Juifs partout. Si vous remarquez l'histoire, à partir de l'an 70, quand le général Titus, général romain, est venu donc à Jérusalem, il a détruit la ville, le temple, l'ont tué beaucoup, et les Juifs l'ont dispersé de partout. Et jusqu'à présent, vous savez, ça se réalise. Est-ce que vous croyez qu'Israël est en paix maintenant? Si vous lisez les journaux, vous voyez, ils ne sont jamais en paix. Tu trembleras nuit et jour. Et c'est la réalité. Moi, j'ai quelqu'un qui m'envoie à chaque fois les nouvelles d'un journaliste souterrain qui marquait à chaque événement qui se passe pour les pays arabes tout autour. Israël est le plus intéressé pour toute moindre chose. Nuit et jour, il vit dans la peur. Toujours des attaques des pays aux alentours d'Israël. Ils attendent ça. Ils ont peur. Et vous savez, ils ne trouvent pas du repos pour la plante de leurs pieds. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais à quelques-uns, chaque année, je ne sais pas si vous le savez, en France, il y a 2000 juifs qui font ce qu'on appelle l'Aliya, qui rentrent en Israël de peur tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur religion dans les pays où ils se trouvent. 2000 en France, tous les gens qui prennent l'avion, quittent la France, amènent tous leurs biens et rentrent en Israël dans le seul espoir de trouver le mur de lamentation et prier librement leur religion. C'est exactement ce que Moïse le disait ici. N'aura jamais de peur. Et vous savez, la haine contre les Juifs, je ne veux pas rentrer plus en détail, mais pour vous dire, vous voyez la prophétie écrite plusieurs siècles avant, et nous voyons la réalisation, maintenant même, nous le voyons de nos yeux, que ce peuple n'est jamais en paix. Le voisinage même des pays aux alentours. J'ai lu un journal qui quand il y avait le navire libanais qui rentrait dans le canal de Suez, quelle peur pour les généraux israéliens, je parle d'il y a 2 semaines, en sachant que maintenant, les navires de guerre même, des Hezbollah et tout ça, qui passent dans le canal de Suez, pourquoi faire? Israël est le plus intéressé, le plus préoccupé par cette situation. Parce que leur sécurité en dépend aussi. Donc vous voyez, le Seigneur avait dit, et ça se concrétise devant nos yeux. Je voudrais juste rapidement, j'en ai au moins 20 prophéties là, qui s'est réalisé en un seul jour lors de la crucifixion de Jésus-Christ. En un seul jour, 20 prophéties. Je vous donnerai la prochaine fois la liste en détail. Je vous donne par exemple pour la trahison, psaume 41:10, et vous pouvez vérifier Matthieu 10:4. La trahison, les 30 pièces d'argent avec lesquelles il a été vendu, Zacharie 11:12, et c'est réalisé, donc Matthieu 26:15. Les prix du champ du potier, Zacharie 11:13, réalisé Matthieu 27:16. Donc tout cela, le jour de la crucifixion du Seigneur, un jour. Pourtant, plusieurs prophètes l'ont prophétisé 5 siècles avant, et au détail près, ça a été réalisé le jour de la crucifixion du Seigneur. Pour vous dire la précision avec laquelle Dieu réalise ce qu'il dit. Ça, c'est donc une manière d'interpréter la méthode littérale. Il ne faut pas quand même ne pas le dire, mais dans les textes prophétiques, parfois l'auteur utilise des langages figurés. Et les difficultés maintenant d'interprétation viennent de là quand c'est au sens figuré. Quand est-ce qu'il faut prendre comme un sens vraiment littéral et quand est-ce qu'il faut prendre le sens figuré? Je vous donne tout simplement un exemple. L'exemple parle plus. Donc ce qu'il faut retenir, donc la méthode littérale, la première vue, quand on lit un texte, on a vu toujours les prophéties dans le passé, c'est réalisé d'une manière littérale. Et donc c'est littéral. Mais exemple maintenant, quand les figures sont utilisées, sans se figurer, comment faire? Donc je prends un exemple. Regardons Matthieu 3:12. Donc Matthieu 3:12. Donc on a des langages figurés. La règle qui ne trompe jamais, c'est le contexte. Il faut regarder le contexte. L'auteur, il utilise cette image, mais dans quel contexte il parle, de quoi il parle? Donc c'est ça la première des choses. Donc on va prendre un exemple, Matthieu 3:12. Quelqu'un peut lire?
Il a son ventre à la main, nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.
Voilà. Qui parle ici? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le précurseur du Seigneur. Et Jean-Baptiste, en parlant du Seigneur, il utilise un langage figuré, un langage, je dirais, agricole, d'un agriculteur. À l'époque, et même dans mon pays, jusqu'à présent, on le faisait même nous, quand vous faites la récolte de riz, vous le mettez dans un endroit sec, et il y a un genre de pierre sous lequel vous allez... Comment appelle-t-on ça?
La pêche.
Non, pour frapper, donc pour enlever les graines de riz. Et après, donc, vous allez piler pour enlever le grain de riz de la paille, de la chaume qui est autour. Et l'image qu'utilise Jean-Baptiste, c'est bien ça ici, n'est-ce pas? Si on va prendre au sens littéral, donc vous allez voir, ah tiens, Jésus alors, il sera dans son air, et c'est le moment de la récolte, il va prendre le blé, donc ben, il faut comme tout le monde. Est-ce que ça a un sens? Non. Donc, il faut regarder maintenant, mais qu'est-ce qu'il entend dans cette figure, image figurée, sens figuré qu'il parle? Il parle de quoi? De quel événement? Il va parler des choses à venir. Donc il va parler des choses à venir concernant le jugement à venir. Et il utilise cette image de la récolte pour dire que il y aura un jugement, les injustes vont subir un jugement éternel. Et les justes, il va l'introduire dans son royaume qu'il va établir. Donc là, ça parle mieux. Quand on comprend que ce n'est pas littéralement dans ce sens-là que Jean veut parler, il se projette dans une époque à venir, encore loin, mais utilise l'image ici de comment on traite la récolte pour parler du jugement à venir. Vous voyez? Donc, c'est ça, le contexte va nous parler et nous indique comment comprendre le sens de le sens figuré qui est donné. Regardez, aussi, on peut utiliser des symboles. Et là, ça devient plus compliqué. Dans l'Apocalypse, on va voir beaucoup de symboles. Parfois, les symboles, l'auteur donne la signification. Regardez, par exemple, Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et Apocalypse chapitre 4, verset 5. Donc on a vu, il peut être utilisé donc la figure, on peut utiliser le symbole. La figure, règle de jeu, c'est le contexte qui va définir le sens à donner selon le contexte de ce que décrit l'auteur. Et pareil pour les symboles ici. Donc Apocalypse 4, verset 5. Voilà. Ici donc, c'est clair, il va utiliser le symbole des lampes. Mais heureusement, il nous dit, pour ne pas être dans n'importe quoi comme interprétation, les lampes c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Par contre, quand on va voir Apocalypse 5, verset 5, là, il va utiliser un autre symbole. Hein? Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Là, il va utiliser le symbole de lion de la tribu de Juda. Alors, si on n'a que ce texte, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous comprendrez ce qu'il dit? Le lion. Le lion évoque donc l'image de la puissance, de la force, n'est-ce pas? Et comment vous interpréterez ce que dit ici Jean? Donc vous donnez quoi comme sens à ce symbole du lion de la tribu de Juda?
Royauté.
Royauté. Oui, on peut dire ça. Est-ce que vous ne vous rappelez pas de Jacob quand il avait donné des bénédictions à ses 12 fils? Regardez Genèse 49, verset 9. Donc, un symbole, toujours, si le sens n'est pas donné dans le passage, il faut le voir par rapport à d'autres passages ailleurs qui parlent de la même chose. Sinon, on va dire des bêtises. Et ici, Genèse 49, 9 nous dit quelque chose.
Juda est un bon lion. Tu reviens de carnage, mon fils. Il croit les genoux, il bouche comme un lion, comme une mine lionne qu'il le fera lever.
Voilà. Donc c'est le tempérament que Jacob voit dans son fils. Ici, Juda, la puissance du lion. Et c'est une figure un peu, je dirais, une figure. Prophétique, parce que quand on parle de la tribu de Juda, d'où descendrait ce... il faut utiliser aussi 2 Samuel 7, s'il vous plaît, en parlant de la tribu de Juda. 2 Samuel 7, parce que M. Bigby parlait de la royauté, c'est l'alliance avec David. Et ici, dans verset 12, donc Samuel qui parlait ici, au verset 12, quand tes jours, à David donc, il est adressé, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermerai pour toujours le trône de son royaume. Etc., etc. Verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et en allant de passage en passage, en regardant, on voit que ce lion de la tribu de Juda, c'est un peu une représentation de Christ qui va être le roi des rois. Et en parlant de son règne qui ne sera sans fin. Donc on peut comprendre hein, le lion de Juda visant le Messie à venir qui sera le roi des rois quand il va régner pendant le règne de 1000 ans. Donc vous voyez, il y a des choses compliquées comme cela quand il s'agit d'interpréter des symboles. Si l'auteur ne le dit pas, il faut le comparer par rapport à ce qui est dit sur ce sujet ailleurs aussi dans la Bible, parce qu'il faut que ça s'accorde. Donc ça c'est la première méthode d'interprétation. Je dirais maintenant la deuxième méthode d'interprétation, c'est que toute prophétie s'accorde. Ça, c'est, tu peux écrire lundi. Deuxième méthode, toute prophétie s'accorde. Je vais vous dire maintenant, d'un côté, vous mettez sous votre note, d'un côté, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Vous mettez Jean 14, verset 3 aussi d'un côté. Toute prophétie s'accorde. Donc, d'un côté, lundi, s'il te plaît, tu mets 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17, Jean 14, 3. Et de l'autre côté, vous mettez 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. Matthieu chapitre 24, verset 30. Oui. 1 Thessaloniciens 4, 13. Tu mets un test, voilà. 4, verset 13 à 17. Jean chapitre 14, verset 3, en dessous. Et de l'autre côté, en contraste de cela, on va mettre 2 Thessaloniciens. 2 tests. 1, verset 8. Matthieu 24, verset 30. Apocalypse 19, verset 14 et 15. Je vous laisse juste observer ces passages. Peut-être quelqu'un lit 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. Et quelqu'un d'autre lit 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. On va comparer les deux passages. Apocalypse 19, verset 14 et 15. Donc, là, merci, on va avoir l'apparence d'une contradiction. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. Quelqu'un peut le lire?
Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'enterrement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a une finale donnée à la voix d'une archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Merci. Et 2 Thessaloniciens 1, 8, 1, 7 et 8. 1, 7 et 8. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne connaissent pas l'évangile de notre Seigneur Jésus. D'un côté, ce que je veux mettre par cet exemple, d'un côté ici, d'après ce qu'a lu notre frère, le Seigneur, il va descendre dans les airs et les morts en Christ vont être enlevés, si vous voulez, et ils vont se rencontrer dans le ciel, n'est-ce pas? Mais dans 2 Thessaloniciens 8, là par contre ils enseignent que les saints seront avec Christ et ils vont, c'est pas dit le mot descendre vers la terre, mais ils vont venir pour juger. Comment on peut dire que Il est dit, Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il va venir avec ses anges pour descendre exécuter un jugement. Donc, d'un côté, Paul enseigne que le Christ arrivera dans les airs et l'Église va être enlevée, en parlant plus précisément des morts en Christ et ceux qui sont vivants qui vont être ressuscités et qui vont monter. Et de l'autre côté, qui vont descendre et sous une flamme de feu exécuter autre chose, un jugement. Donc, d'apparence, on dit, mais il y a une contradiction dans ce passage, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une contradiction? Donc, le but, quand on étudie la prophétie, de savoir que toute prophétie s'accorde. Mais à nous de comprendre, mais comment ça peut s'accorder, ces deux choses? Donc, ça peut s'accorder tout simplement parce que la deuxième partie ici, en parlant de jugement à venir, c'était prophétisé, on va voir ça, dans le livre de Daniel et dans d'autres livres de l'Ancien Testament, c'était prophétisé déjà dans l'Ancien Testament pour le jugement quand Christ va venir juger le monde sur la terre, les nations qui sont hostiles à Dieu, et établir après le jugement son règne, c'était prophétisé déjà. Tandis que ce qui est nouveau ici, c'est jamais été dit dans l'Ancien Testament, la première partie concernant l'Église. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui est révélé maintenant par Paul ici, jamais dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est deux choses qui ne se contredisent pas, mais deux choses qui vont se passer, mais à des intervalles de temps séparés, si vous voulez. Donc, il y a l'enlèvement de l'Église d'abord, et après, Jésus-Christ va revenir avec les saints et les anges pour juger. Et là, dans ce cadre-là, ce que vous voyez qu'il y a deux étapes de ça, son deuxième venu, là, ça s'accorde. Est-ce que vous me suivez? Il y a dans l'Ancien Testament, donc, il est prophétisé qu'il va venir pour juger. Je vous donnerai la prochaine fois les passages, on va l'étudier. Et établir son règne de justice sur la terre. C'était dit déjà dans l'Ancien Testament. Tandis que là, l'enlèvement de l'Église, c'est nouveau. C'est uniquement ici qu'on le voit. Mais ces deux choses vont se dérouler, non pas en contradiction, mais exactement comme il faut, parce que l'enlèvement va précéder la venue avec l'Église pour juger avec les anges. Donc il y a deux étapes dans la venue du Seigneur, sa deuxième venue. Il y a d'abord la première étape, l'enlèvement de l'Église, et la deuxième étape, avec l'Église, avec les anges, descendre pour juger. Donc dans ce cas-là, ça s'accorde. Donc c'est pour ça que toute prophétie s'accorde. Nous ne pouvons peut-être pas, avec notre petite intelligence, voir comment ça peut s'accorder, mais aux yeux de Dieu, tout colle comme il faut. Et nous devons avoir l'humilité de le reconnaître, ça, que parfois c'est difficile. Troisième loi d'interprétation, encore je te demande ta contribution lundi, un passage difficile toujours doit être expliqué par un passage qui est simple et qui est clair. Donc, l'explication d'un passage difficile par un autre plus simple. Je vais vous mettre un problème ici, que je me suis mis, mais je me suis aidé quand même dans ma recherche pour résoudre le problème. Donc un passage difficile, je ne vois pas de quoi il parle ici, mais à l'aide d'autres passages qui est plus simple, mais à condition que les passages parlent du même événement, là je pourrais comprendre les choses. Je vous demande par exemple de regarder à Apocalypse chapitre 6, verset 1. Apocalypse chapitre 6, verset 1 et verset 2. Quelqu'un peut le lire?
Je vis alors l'anneau ouvrir un des sept sceaux, et j'entendais l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre: viens! Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire.
Voilà. Pour le mettre dans le contexte, on avait lu tout à l'heure le chapitre 5. Il y a une grande question qui se pose, mais qui est digne d'ouvrir le livre dans lequel il y a les jugements à venir. D'accord? Donc, Jean voyait, hein, en vision, donc, on a trouvé la personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul digne, hein, d'ouvrir ce livre pour faire dérouler les sceaux, hein, le jugement un par un. Et ici, au chapitre 6, c'est le premier jugement. Et le premier jugement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui monte sur un cheval blanc. La question, mais qui est cette personne? Si vous avez que ce passage... Donc on est dans les grandes tribulations ici. Et le premier jugement, c'est, il y a quelqu'un qui monte un cheval blanc. Quel genre de jugement, n'est-ce pas? Quelqu'un qui monte. Et il faut reconnaître, dans l'époque, apparemment, les soldats romains, hein, quand ils gagnaient la guerre dans les batailles, ils font des processions, hein, dans la ville, et montaient sur le cheval blanc, et tout le monde applaudisse, hein, parce qu'ils étaient vainqueurs lors de la bataille. Et ils amènent derrière eux les gens qu'ils ont battus, les ennemis qui sont vaincus, et qui s'entraînent derrière eux. Voilà leur gain, en quelque sorte, lors de la bataille. Et ils font une procession tout au long de la ville, et ils montaient sur le cheval blanc. D'après les commentateurs, c'était ça à l'époque. Et l'image, c'est ça ce qui est utilisé ici. Mais la question, à votre avis, qui est cette personne qui est un jugement et qui monte sur le cheval blanc? Au début de la grande tribulation. Là, on n'a pas de réponse. Heureusement, on voit une autre quelque chose, chapitre 19. Regardez, Apocalypse chapitre 19. Mais le problème, c'est qu'Apocalypse chapitre 19 n'est pas au début de la grande tribulation, c'est à la fin. Et donc, on n'a pas gagné. Apocalypse 19, par exemple, vous allez lire verset 11 à 13. Vous allez voir quelqu'un qui monte sur un cheval blanc. On s'est dit, on a gagné. Mais le problème, c'est que cette personne-là ne se révélera pas au début, il se révélera à la fin. Quelqu'un peut lire verset 11 à 13.
Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que quatre ans le prenaient, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de
vêtements
faits de sang,
pour
la parole de Dieu.
Voilà. Et là, il y a encore une autre personne, mais ce n'est pas au début de la grande tribulation, c'est à la fin. Hein? Qui est cette personne? Là, c'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Qui est cette personne? On lui donne son nom. Hein? Véritable. Hein? Et encore, qui peut m'aider? La parole de Dieu. Mais qui est la parole de Dieu? Jésus-Christ, Jean chapitre 1, verset 1 à 2 et verset 14. Ah, donc le Seigneur Jésus va monter sur un cheval blanc, il va combattre, il va juger. Hein? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais, est-ce qu'à votre avis, c'est la même personne qui monte alors dans le chapitre 6? Donc le chapitre 6, c'est quelqu'un qui monte sur un cheval blanc, qui va imiter le véritable, qui viendra plus tard. Et là, je suis mal, parce que je ne peux pas avoir des comptes, mais qui est alors cette personne? Qui est un jugement? Donc, dans ce cas-là, pour élucider la chose, on va chercher un passage ou un texte qui parlera du même événement de la grande tribulation. Est-ce que vous savez dans l'évangile, un des évangiles qu'on connaît beaucoup, qui parle de grande tribulation? Dans Matthieu chapitre 24. Et à la lumière de l'arrière-plan du chapitre 24 de Matthieu, je peux dire presque avec certitude qui est la personne qui est un jugement, qui montera dans l'Apocalypse 6 le cheval blanc. Donc vous voyez, l'explication d'un passage où j'ai du mal à comprendre, je peux à la lumière d'un passage qui parle du même événement, savoir alors qui est cette personne qui est un jugement. Regardez Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, et là c'est le Seigneur Jésus même, hein, qui parle, hein, de la grande tribulation, et il dit ceci. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4, juste verset 4 et 5, quelqu'un peut lire?
Jésus l'a répondu. Prenez garde. plusieurs viendront sous mon nom, les hommes. Certains qui suivent le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
Voilà, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant, est-ce que vous pouvez me dire qui est le monsieur, si je peux dire, le monsieur qui montera le cheval blanc, ce qui est un jugement, le premier jugement, lors de la grande tribulation? Qui imitera le véritable, qu'on verra plus tard? Qui est ce monsieur?
L'Antichrist.
Vous voyez? Pourquoi je vois que c'est l'Antichrist? Et regardez, Jésus même avertissait concernant cet événement qu'il y aura plusieurs qui viendront sous mon nom. C'est moi qui suis le Christ. Et je dirais antéchrist. On peut le dire ainsi, celui qui viendra avant le Christ. C'est pour sa deuxième venue. Donc vous voyez comment on élucide l'énigme pour ce jugement. Et on peut le conforter, vérifier dans 2 Thessaloniciens. Regardez cet homme, cet impie. 2 Thessaloniciens maintenant chapitre 2. Donc, je vous montre un peu les problématiques, ce qu'on va traiter dans Daniel. Comment un passage difficile peut être expliqué par un autre qui parle de la même chose? Et là, Jésus avertit d'avance dans Matthieu 24 qu'il y aura beaucoup de gens qui parlent de « Je suis le Christ, je suis le Christ ». Ah, donc celui qui se dit qu'il est le Christ, qui va imiter le vrai Christ dans le cheval blanc de l'Apocalypse 19. Mais ce n'était pas le vrai. Donc, c'est l'Antichrist qui fait l'opposé de Christ. Et on va donc regarder 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit concernant cet antichrist?
Par le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore être disparu.
Verset 8.
Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avenir.
Voilà. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, des prodiges mensongers. Vous pouvez revoir Matthieu 24, il est dit. Et j'aimerais juste vous montrer pourquoi on est sûr que Matthieu 24 correspond bien à l'arrière-plan, si vous voulez, prophétique de Apocalypse 6. Il y a Dwight Pentecoste, c'est un théologien qui a fait l'étude, et j'ai relevé le résultat, qu'il y a une similarité incroyable entre Apocalypse 6 et Matthieu 24. Et dans la chronologie des événements qui vont venir, c'est pas encore arrivé à venir, c'est vraiment collé. Vous regardez, je le donnerai la prochaine fois, par exemple, pour la guerre, si vous avez lu Matthieu 24, tout à l'heure on a lu que 4-5, verset 6, il va dire, Jésus va parler de guerre. Eh bien, Apocalypse 6, 3, 4 parle de la guerre aussi. Après, Matthieu 24, verset 7, va parler de la famine. Vous regardez Apocalypse 6, verset 5 et 6, il va parler de la famine. Après Matthieu 24, verset 7 à 9, il va parler de la mort. Il y a beaucoup de morts. Et Apocalypse 6, 7, 8 va parler aussi de la mort. Donc il y a une correspondance, une similarité incroyable entre ce que Jésus a dit de ce qui va se passer pendant la période de la grande tribulation. Et donc passage de Matthieu 24 va élucider ce personnage clé de la grande tribulation qui est l'Antichrist. Il n'est pas le seul, parce qu'il y aura un dictateur, on verra dans Daniel, dictateur qui va régner sur ce monde sous l'Antichrist, sous l'autorité de l'Antichrist. Donc les deux acteurs principaux, et Israël le troisième acteur aussi. On verra tout ça la semaine prochaine. Donc vous voyez, j'ai posé un peu les difficultés, comme quoi on doit être très prudent. Très prudent quand on étudie la prophétie. Donc, expliquer un passage difficile par un autre plus simple qui parle de la même chose. Comme Apocalypse 6, Matthieu 24, parle de cet événement. Et pour terminer, la quatrième loi d'interprétation, c'est ce qu'on appelle la loi d'intervalle futur. Quand le prophète de l'Ancien Testament voit un événement, il voit comme si devant lui un sommet de montagne. Mais plus on va s'approcher de la montagne, en fin de compte, c'est pas qu'une seule montagne, il y en a une autre montagne derrière, et une vallée qui les sépare, ça veut dire un grand intervalle de temps qui va les séparer. Donc ça c'est la quatrième loi d'interprétation, c'est ce qu'on appelle une loi d'intervalle futur. Exemple aussi, regardez Ésaïe 61 verset 2. Ésaïe 61 verset 2 pour vous montrer, Ésaïe quand il a prophétisé ici, il voyait deux réalité qui s'exécute en un seul moment à ses yeux. Lui, il voyait, je ne dirais même pas qu'il voyait comme ça. Lui, il était utilisé par Dieu de parler, et voilà. Et quand on voit dans le Nouveau Testament l'accomplissement que, ah non, ce n'est pas uniquement réalisé dans un même instant, mais c'est quelque chose reporté à plusieurs intervalles d'années entre les deux. Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 2. On peut commencer par le verset 1, s'il vous plaît. Et on va terminer là-dessus.
L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a réconforté de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés.
Voilà. Vous voyez le Seigneur, nous, et en même temps, vous mettez le doigt dessus, vous allez dans Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Où le Seigneur Jésus-Christ, plusieurs siècles plus tard, va maintenant citer cette prophétie d'Ésaïe. Il va le citer, vous allez voir, il va s'arrêter, boum, juste à une partie. Il ne va pas lire la suite. Donc, Luc chapitre 4, verset 16. Jusqu'à verset 21.
Il se rendait à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Donc vous voyez, cette parole d'Ésaïe était accomplie en la personne de qui? De Jésus. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Ésaïe disait, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et le Seigneur s'est arrêté pour l'année de grâce, pour publier une année de grâce. Ça montre très simplement, Ésaïe nous voyait les deux choses en un instant, mais le Seigneur, cette prophétie est accomplie dans le Seigneur, dans sa première venue. Le Seigneur est venu, sa première venue est symbolisée par cette année de grâce. Et donc nous sommes bénéficiaires aujourd'hui aussi de cette année de grâce. Mais le jour, l'autre, le jour de vengeance, c'est encore à venir, le jour de jugement. Donc vous voyez, Ésaïe condense en un seul événement un sommet de montagne, mais quand ça sera accompli, c'est le Seigneur, la première venue, qui était visée pour l'année de grâce, mais 2000 ans maintenant, plus que 2000 ans s'écoulent maintenant, en attendant que le jour de vengeance de notre Dieu viendra, et ça arrivera. Donc ça c'est l'intervalle futur. Le prophète disait une chose visant un point particulier, un sommet de montagne si vous voulez, mais en fin de compte, dans la réalisation, il y a une partie partielle, je dirais, qui est accomplie, mais il y a un large, vaste espace de temps, plusieurs siècles, pour l'accomplissement de ce qui va suivre après, qui n'est pas encore venu, le jour de vengeance, qui signifie le jour de jugement que nous avons entendu tout à l'heure. Donc voilà les quatre lois importantes quand on étudie les prophéties, et nous allons nous y attacher quand on attaquera le livre de Daniel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une généralité, et j'espère que ça vous donnera cette motivation, comme je l'ai dit, pourquoi on l'étudie? Parce que notre vie aujourd'hui doit être calée dans la perspective de ce que nous connaissons des plans futurs de Dieu concernant l'avenir. Ça veut dire que la mentalité de ce monde doit ne plus être la nôtre. Parce que nous savons que ce monde attend son jugement et va vers ce jugement. Et donc nous devrions nager à contre-courant pour vivre une vie qui est digne d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra, et on attendra cet événement. Et ça doit être une motivation pour nous dans notre propre sanctification. Vous voyez, c'est très important.